Nous avons donc, je répète un petit peu ce qu'on a fait, un petit résumé de ce que nous avons déjà vu la fois dernière. Nous parlons donc de la racine, de la source de toutes les délivrances, et donc que l'exil d'Égypte est un modèle de base pour tous les exils, et la sortie d'Égypte est un modèle de base pour toutes les délivrances. C'est clair. C'est-à-dire que l'Égypte joue ici un rôle de matrice. C'est de là-bas que l'on doit tirer tous les enseignements concernant notre délivrance et bien entendu étudier tous les enseignements nécessaires pour savoir ce que représente un exil. Donc, dans la notion Égypte, il y a en fait beaucoup de notions qui se cachent. Par exemple, Mitzrayim. Dans les lettres hébraïques, vous savez que les lettres sont des codes et on peut écrire Mitzrayim comme Metzar et il reste Mi, c'est-à-dire Metzar, prison, Mi, l'identité. Donc Metzar, Mi, c'est Mitzrayim. Mitzrayim est donc une prison de l'identité humaine. Autrement dit, celui qui se trouve dans un état de Mitzrayim, peu importe même s'il n'est pas en Égypte, vous comprenez que c'est une notion mentale. Ça peut être aujourd'hui. S'il se trouve dans une perte de son identité, dans un oubli de son identité, il se trouve dans un état d'Égypte. Et donc, il doit s'en sortir. Et le meilleur moment pour sortir, c'est le mois de Nissan. C'est-à-dire que, puisque ce mois était doté d'une capacité de se libérer, mais à chaque année, revient cette même puissance de se libérer. Et donc, il faut utiliser l'instant, utiliser cette force cosmique qui circule dans l'univers pour pouvoir sortir en fait de cette prison de l'identité, c'est-à-dire de cet oubli de qui je suis, pour revenir en fait à qui je suis. Donc il y a une notion de teshuva qui est cachée à l'intérieur de cette sortie d'Égypte. Car la sortie d'Égypte est d'abord et avant tout les retrouvailles avec soi-même, avec son identité, avec ce que je suis, comme Dieu m'a créé au départ. Et qui j'étais au départ? Qui Dieu a pensé au départ? Un peuple, concernant Israël. Israël, Alou Bemarchava Trila, en tant que nation, ce qu'on appelle la Neshama d'Israël, c'est elle qui était à l'esprit de Dieu. C'est pas par hasard que Dieu, lorsqu'il rencontre le premier homme qui va être porteur de cette Neshama, il lui indique ce qu'il veut qu'il redevienne. « Ve'a'isra le goy gadol » « Je veux que tu deviennes un peuple. » C'est ce que Dieu dit à Abraham. Pas que tu deviennes quelque chose que tu ne connais pas, mais que tu reviennes vers la source que moi j'avais pensé au départ. Mais cette source, elle doit passer donc par des éléments humains. Donc ça commence par toi, Abraham. Tu vas engendrer, tu vas avoir des enfants. Et tout doucement, vous allez retrouver en fait la notion qui a précédé la création. C'est clair? Donc on repart en fait vers ce qui nous a donné vie. Donc dans le judaïsme, il y a une notion qui est inverse apparemment. C'est qu'on va vers le passé. Chadesh yamenu kekedem. Et en fait, le passé n'est pas seulement un passé, c'est en réalité ce qui était au départ, dans l'idée première. Sauf Maase, Bemarchava Trila. Quand est-ce que mon action est terminée? Quand est-ce que je sais que j'ai terminé une action? Lorsque cette action est fidèle à ce qu'il y avait dans la pensée qui a précédé cette action. Eh bien, Dieu a pensé Israël en tant que peuple, et tant que nous ne sommes pas en tant que peuple dans ce monde, eh bien, c'est comme si Dieu, Chas Veshalom, n'a pas encore réalisé ce pourquoi il a fait créer ce peuple. Donc, si vous vous considérez comme des éléments séparés, comme des êtres séparés, que vous n'avez pas compris la notion de peuple, ce n'est pas une réalisation de la volonté de Dieu. C'est clair. Et donc, tout l'essence de la Haggadah de Pessah, c'est de faire comprendre à nous-mêmes, à nos enfants, à nos parents et à tous ceux qui nous voient, qu'en réalité, notre but, c'est de retrouver ce que nous avons oublié. C'est-à-dire l'être premier, l'idée première qui était dans la pensée divine, le peuple d'Israël. Ken.
Vous avez dit Mitzrayim, c'est Metzer, donc prison, et Mi,
Non, Mitzrayim, il y a deux mêmes.
D'accord.
Donc il y a un Metzar et Mi. Le même du pluriel de Mitzrayim, le même de la fin, tu l'utilises comme Mi et il reste Metzar. D'accord, c'est les mêmes lettres, j'ai rien changé. Ok, donc c'est la prison de l'identité. Donc, ça c'est le secret de ce que nous avons vu. Maintenant, pourquoi descendre en Égypte pour retrouver ce que nous avons perdu? C'est ça en réalité que nous avons posé comme question. Et le Rav Kharlap, rappelez-vous, nous a dit que seulement dans un état d'Égypte, c'est-à-dire seulement dans une prison telle que l'Égypte, paradoxalement parlant, on peut retrouver notre identité. Et quelle était la leçon qui se cachait dans ce message du Rav Kharlap? C'est que précisément dans les moments où tu te sens le plus mal, c'est là en réalité où tu vas retrouver ton identité perdue. Donc c'est comme si on te baignait dans un trou noir, on te plongeait dans une nouvelle dimension qui cache en fait réalité ton origine. Et dans cette dimension, comme tu te sens perdu, ta tendance est de revenir à ce que tu as perdu. Et je vous ai donné l'exemple que dans la plaie des ténèbres, précisément, lorsqu'il faisait très noir, très nuit, c'est là-bas où on a trouvé l'or, l'argent et les vêtements pour sortir d'Égypte. Et que tout ceci est un message, pas seulement que nous avons utilisé nos voisins égyptiens, mais que nous avons récupéré les étincelles qui étaient en fait tombées en Égypte. C'est comme si les étincelles divines du premier degré étaient tombées dans les oubliettes de ce monde. Et on vous envoie dans les oubliettes de ce monde pour récupérer toutes ces étincelles. Je vais vous donner un petit exemple. C'est comme si on vous jetait dans une poubelle, mais dans vos poches, il y a des diamants. Et quand vous êtes tombé dans la poubelle, eh bien, vous avez perdu, en fait, des diamants. Vous ressortez de la poubelle et on vous dit, alors, tu t'en es bien sorti. Tu dis, oui, mais j'ai quand même laissé quelques diamants dans cette poubelle. Alors, tant que la poubelle n'a pas été jetée, tu vas repartir, en fait, à chaque fois, dès que c'est possible, et tu vas retrouver, en fait, des diamants que tu vas sortir, récupérer de toute cette pourriture. C'est la même chose dans notre vie. Parfois, nous devons redescendre dans une certaine poubelle, c'est juste imagé, pour aller chercher des diamants que nous avons perdus lorsque nous étions là-bas, à un moment donné dans notre vie. Quel?
Est-ce qu'on peut juxtaposer le fait qu'Adam Arishan nous a fait une fête?
Quel?
Il a été exclu du Gan Eden et il doit retrouver ses nitsim, il doit revenir à sa source.
Okay.
Est-ce que ça correspond aussi à la galoute Mitzrayim? Est-ce que ça correspond aussi à la galoute
Alors tout ce que tu dis est écrit dans les livres du Hari Akadosh, du Harizal, qu'en réalité les gens qui étaient en Égypte n'étaient rien d'autre que les étincelles du premier homme, que le premier homme a perdu. Donc toutes ces Neshamot se sont retrouvées en Égypte. Donc Adam Arishon devait repartir en Égypte. Maintenant c'est sous la forme de toutes les étincelles. Donc c'était déjà des hommes, des femmes, des enfants. C'est plus l'homme lui-même, Adam Arishon. C'est tout ce qui est sorti de lui. Ce sont les étincelles qu'il a perdues. Et tout ceci doit être récupéré pour revenir en fait au Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden, ici, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire que Adam Rishon a été jeté, rejeté, envoyé du Jardin d'Éden, et l'histoire humaine et l'histoire du peuple d'Israël, c'est de revenir au Jardin d'Éden.
Et est-ce que, si on prend ça à un autre niveau, qu'on fait l'Alia, est-ce qu'on doit faire en quelque sorte rebobiner en fait la cassette?
Tout à fait.
Pour revenir au royaume d'Israël avant à l'époque d'Abraham, de Jacob et ensuite d'Adam Rishon?
Quel? Quand tu reviens en fait en Israël, quand tu fais ton Aliya, d'abord tu as ramené en fait des étincelles, en l'occurrence toi-même, avec tout ce que tu as appris dans ta vie. D'accord ? Donc tu es un élément très riche, tu es un petit monde qui a en lui des idées, des pensées, des pouvoirs, des capacités que Dieu a donné en toi, qui pour l'instant étaient au service d'une nation étrangère. Et quand tu as fait ton Aliya, tu es revenu vers ta nation. Toutes ces forces-là, maintenant, tu vas les donner à qui? À ton peuple. Donc, c'est comme si, en réalité, tu redonnais, en fait, à ton véritable degré d'identité, toutes les forces que Dieu t'a données et que tu as perdues pendant 2000 ans ou plus, en exil. Donc chacun de nous est une étincelle ou des centaines d'étincelles perdues qui sont revenues en fait à leur source. Donc tu dois remonter effectivement tout le processus jusqu'au degré ultime que nous appelons la Geoula Hashlema. D'accord ? Okay. Exactement. Donc Yetziat Mitzrayim, c'est ce que le Rav Haralap nous a donné donc comme enseignement. Ne le prends pas seulement dans son sens négatif. Utilise le noir pour retrouver des éléments de lumière. Si déjà tu es dans le noir, ne laisse pas le temps passer pour en sortir, mais apprends quelque chose. Imagine-toi, tu as acheté une voiture, tu as eu un accident, Chas v'shalom. Ta voiture est rentrée au garage, on a réparé ta voiture. Tu viens 10 jours après, tu récupères ta voiture. C'est tout ? Non. Le temps où elle était au garage, tu as dû faire un travail sur toi de prise de conscience. Peut-être que tu es un mauvais conducteur. Et donc, tu as fait un travail sur toi pour que la prochaine fois, Be'ezrat Hashem, on n'a pas juste réparé la voiture, on te l'a ramené comme elle était. Il s'est passé quelque chose. Tu as gagné quelque chose dans cet accident, Chas v'shalom. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir. Et si je dois traduire ça au niveau de votre vie, à chaque fois que vous avez un problème, utilisez ce moment-là pour gagner quelque chose pour l'avenir, pour ne plus refaire cette bêtise à l'avenir, pour sortir renforcé de cette expérience que vous venez de traverser. Quand une fille vous a quitté, quand vous avez une histoire d'amour qui s'est cassée, eh bien, c'est la même chose. Utilisez cette force pour renforcer, pour devenir quelqu'un d'autre, pour redevenir un nouvel homme, et ne pas refaire les mêmes bêtises que tu as faites avant avec l'autre personne. La même chose dans tous les domaines. C'est clair. D'accord ? Donc, tout ceci, nous avons dit que raconter l'histoire donc, de la sortie d'Égypte, Harezé Meshubach, rappelez-vous, qui était en réalité le grand gagnant de ce racontage, on va dire ? Celui qui raconte, lui-même. Parce que quand tu es capable de dire les choses, d'exprimer les choses, tu es en train de guérir. Vous comprenez que la guérison passe avant tout par la parole. Vous êtes conscient de cela ? Oui ou non ? D'ailleurs, en français, on l'entend bien, la maladie veut dire ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, c'est une impossibilité, une incapacité de dire. Elle a du mal à dire. Donc la maladie, sa guérison commence d'abord par un bon dit. D'accord ? Parce que la parole, c'est l'essence de l'homme. L'homme est différent de tout par son essence, qui lui est propre, seulement à lui et pas à d'autres. C'est-à-dire la parole, le verbe. Ruach memalela. Kadosh Baruch Hu nous appelle un souffle qui parle, une pensée parlante. Donc, moralité, quand vous êtes dans une situation où la parole n'a pas sa place, que vous n'êtes pas capable de parler, bien ça se manifeste malheureusement par de la violence. Par le mot Alimut, en hébreu violence, c'est la même racine que le mot ilem, qui veut dire muet. Donc quelqu'un qui est muet, forcément il va utiliser ses mains à la place de sa bouche. Donc toute guérison passe par la verbalisation, l'extériorisation des choses, l'expression des choses par la bouche. Et la bouche donc joue un rôle très important au départ. Après, bien entendu, il faut arriver à l'acte. Mais la première des choses, c'est d'abord de redevenir celui que tu es, c'est-à-dire l'homme qui parle, la pensée qui parle. Et avec cela, tu ressembles à Dieu. Car Dieu, en réalité, parle. Car Kadosh Baruch Hu, c'est lui, c'est de lui que vient ce verbe, c'est de lui que vient cette force de la parole. Et donc, tout homme qui a récupéré son force de la parole, sa force de la parole, est guéri de sa maladie. Et donc, vous avez une... De là vient le mot malédiction, chas v'shalom. Et l'inverse, bénédiction, une bonne diction. Donc, dès que tu as guéri de ta malédiction, de ta maladie, tu deviens bénédiction. Donc, tu es en train de guérir et ta bracha arrive. C'est clair. Donc, kol amarbe saper beitziat mitzrayim, hareze meshubach. Qui donc est en train de guérir? Celui-même qui parle, celui-même qui raconte. Donc il faut beaucoup raconter, tel point que nous disent les Chachamim, même si tu es seul dans ton seder de Pessah, pose-toi les questions et réponds. Pourquoi? Parce que tu dois parler à haute voix. C'est très important de dire les choses à haute voix. Et c'est pour ça qu'on étudie à haute voix et non pas à voix basse. Car l'étude à haute voix te permet d'avoir un feedback, c'est-à-dire tu t'entends. Vous avez déjà joué ou chanté quelque part? Si vous ne vous entendez pas vous-même sur un haut-parleur qui revient vers le chanteur lui-même, il ne peut pas savoir s'il chante faux. Donc tous les haut-parleurs ne sont pas dirigés seulement vers le public. Il y a certains haut-parleurs qui sont dirigés vers celui qui chante, vers celui qui joue, pour qu'il entende lui-même le son qui sort de lui. Mais c'est la même chose. Si tu n'entends pas ce que tu dis, il y a un problème. Donc si vous étudiez à voix basse, vous n'êtes pas en réalité en feedback, vous ne savez pas comment la chose est sortie. Donc votre mémoire est en train de flancher. Quel flancher? Vous allez oublier. Alors que si vous étudiez à haute voix, vous imprimez la chose. Et c'est très important d'imprimer la chose. C'est-à-dire, ça c'est la racine, tout ce que je viens de vous dire, de Pessah. Puisque Pessah veut dire la bouche qui parle. La bouche qui raconte. Pessah. Donc si vous vivez Pessah convenablement, vous êtes censé ouvrir votre bouche. À tel point que celui qui ne l'ouvre pas, ce soir-là, on lui fait ouvrir. At ptachlo. Ouvre-lui la bouche, parce qu'il est malade. Donc le plus grave des enfants, c'est She'eino yodea lishol. Il ne sait pas questionner. D'accord? Donc il doit revenir à sa source humaine, qui est en fait la question. Car l'homme est une question par nature. Adam en valeur numérique, c'est ma. 45. Donc c'est une question. Donc si l'homme est une question et qu'il ne sait plus poser de questions, c'est qu'il s'est véritablement éloigné de sa propre identité. Il en est malade. Et donc il faut guérir de cette maladie. Et ce n'est pas par hasard que tous les psychologues ont bien compris le degré et utilisent en fait la parole pour exprimer le mal que la personne ressent, pour guérir. Donc, je suis après le texte gras, Vekol Amarbe, le premier texte gras, qui s'y pourra avdout, vous y êtes? Donc, raconter l'asservissement, ou l'ossipour shel gnai, ce n'est pas seulement quelque chose de mal. Je raconte la situation négative dans laquelle je me trouvais. Adraba, au contraire, הוא בא ללמד דבר נפלא שאפילו בזמן שמצד מעשיהם שהיו ישראל שקועים בבוץ החלאה במם תת שערי תומה, ça vient enseigner que bien que apparemment les enfants d'Israël se trouvaient en Égypte à 49 degrés d'impureté, אפילו אז בקע האור הפנימי את כל המסכים ונגאלו ישראל. Bien que nous ayons dit tout ça, eh bien ils sont sortis d'Égypte malgré tout. Alors comment est-ce qu'ils sont sortis d'Égypte? Je vous pose la question. S'ils étaient à 49 degrés d'impureté, qui a fait en sorte de les faire sortir d'Égypte? C'est pas possible. Quelqu'un qui faute ne peut pas sortir d'Égypte. Oui ou non? Ils sont à 49 degrés d'impureté, c'est-à-dire ils sont dans un moment d'aveuglement total, de fermeture, d'imperméabilité totale. Alors expliquez-moi. Sur quelle base s'est basé Dieu pour les faire sortir d'Égypte? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Peu importe. À 49e degré, on est déjà presque foutu. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui les a fait? C'est quoi cette étincelle? Ils sont sortis grâce à eux ou grâce à autre chose? Il y a fait. Grâce à la Ségoula. C'est-à-dire, ils ne sont pas rédemptés, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ont fait quelque chose de bien, ce n'est pas le cas, mais ils sont sauvés parce qu'ils ont malgré tout une étincelle divine qui est en eux que nous avons déjà étudiée, que nous avons définie comme étant la Ségoula. La Ségoula étant une capacité que Dieu a placée à l'intérieur de la Neshama de ce peuple, et même s'ils tombent, il reste toujours ce degré-là, quoi qu'il fasse. À tel point que la Gemara nous dit « Israël shechata, Israël hu ». Même un homme d'Israël qui a fauté, « afalpi shechata », même s'il a tout fauté, « Israël hu », il reste encore Israël. Il ne peut pas changer son identité car il a un degré qui est invariable. Et donc c'est grâce à ce degré-là que nous avons été libérés. Donc pas par nos actions. Alors je vous pose une deuxième question maintenant. Pourquoi vous dites le Hallel alors à Pessach? Puisque le peuple était à 49 degrés d'impureté. Et pourquoi les gens se posent la question s'ils doivent dire le Hallel à Yom HaAtzmaout en disant que l'État est un État qui a été fait par des non-religieux? Je suis en train de vous prouver que c'est exactement la même chose. Donc si tu ne veux pas dire le Hallel à Yom HaAtzmaout, tu devrais arrêter de dire le Hallel à Pessach. Puisque à Pessach, ils étaient encore pires. Ça veut dire qu'en réalité, on remercie Dieu de son implication dans l'histoire humaine et notamment dans l'histoire d'Israël. Et que malgré nous, d'ailleurs la Haggadah nous dit « Ve'at erom ve'eria », nous étions nus de toute mitzvot, de toute Torah. Et pourtant, et malgré tout, il nous a sortis de là-bas. Ça veut dire que Dieu croit en nous beaucoup plus que nous ne croyons en nous-mêmes. Dieu a foi en nous plus que ce que nous avons foi en nous-mêmes. Et d'ailleurs, on le dit tous les matins, « Rabba emunatecha ». Dans le Modéani, les deux derniers mots, c'est « Rabba emunatecha », traduction, « Grande est ta foi en moi ». C'est-à-dire que Dieu a foi en moi, alors que moi-même, je ne crois pas en moi-même, parfois. Ken.
On n'admet pas quand même qu'ils ont gardé certains trucs, leurs vêtements, leurs noms.
Ça, c'est au début. Au début, pas à la fin. À la fin, c'était fini. D'ailleurs, c'est marqué dans la Gemara, quand ils traversent la mer, les anges viennent et posent la question à Dieu. Halalu ovde avodazara, ve halalu ovde avodazara. Ceux-là sont des serviteurs d'idolâtrie, et ceux-là sont des serviteurs d'idolâtrie, autrement dit Israël et les Égyptiens. Alors pourquoi tu sauves ceux-là et tu noies ceux-là? Une bonne question. Ken. Alors, ça aussi, c'est encore une autre question. Tout ce que je viens de vous dire, moi, c'était ceux qui sont sortis. Alors imaginez-vous, ceux qui sont sortis, ils étaient déjà à 49 degrés d'impureté. Donc ceux qui sont restés étaient à quel degré d'impureté? 50. Ils avaient quoi? Mais justement, non. C'est à ce moment-là que s'est décidé ceux qui allaient être porteurs de cette étincelle divine et ceux qui ne voulaient pas être porteurs de ce message. Et donc, là-bas, il y a eu la première fois, et la seule fois d'ailleurs dans l'histoire, une décision, est-ce que je fais partie de cette histoire divine qui passe par des hommes? Est-ce que je fais partie de ce peuple ou pas? Et malheureusement, 80% n'ont pas décidé de sortir. Et quand est-ce qu'ils sont morts? Dans la plaie des ténèbres. Et Rashi, si vous regardez là-bas, il dit une seule chose, chez l'Oratsulatset, qu'il ne voulait pas sortir. Et ça s'est manifesté clairement par le fait que nous avons peint le linteau et les deux mezouzot. C'est-à-dire, je fais partie maintenant de ceux qui sortent, en faisant un acte minimum qui me fait rentrer dans le jeu. Et d'ailleurs, cette peinture, qui était en fait du sang de ma Brit Mila, et du Korban Pessah, que nous avons égorgé l'après-midi même. Et on a mélangé les deux sangs, et la brite et le corban, et nous avons peint les linteaux et la mezouza. Les deux mezouzot et le linteau. Et où est-ce que nous avons peint? À l'extérieur de la maison ou à l'intérieur? À l'intérieur, pas à l'extérieur, comme vous avez vu dans le film. Ken, c'est à l'intérieur que ça a été peint. Pourquoi? Parce que c'est pas pour Dieu. Dieu n'est pas Batman qui passe au-dessus en volant pour regarder, tiens, celui-là, il a du sang, il a fait ce qu'il fallait. Non. C'est toi-même qui devais prendre conscience si tu voulais faire partie de ce peuple. Et Dieu, il sait très bien. Et donc, c'est à l'intérieur de ta maison que tu as besoin de donner ce signe et pas à l'extérieur. C'est clair. Quel? Okay. Dernier degré, c'est 50. 50, c'est un point de non-retour. Chas v'shalom. Si tu me poses la question aujourd'hui, c'est la dépression. Quelqu'un qui est en dépression, chas v'shalom, qui est rentré dans une dépression totale, il a traversé malheureusement la 50e porte et c'est très très difficile, presque impossible de l'en sortir. Donc il faut faire très attention de ne jamais tomber dans la dépression. Dès que vous sentez quelque chose qui ne va pas, il faut vite s'en occuper, parler, soigner s'il faut, mais jamais laisser ce degré. Car c'est le degré le plus négatif qui puisse exister chez un être. Cette tristesse et cette sombrer en réalité dans une mort tout en faisant croire que tu es vivant. Ça, c'est une 50e porte, c'est-à-dire un manque d'espoir total de tout. avez une question?
Pourquoi le Korban Pessah il a autant d'importance?
Le Korban Pessah, en fait, vient prouver que tu es capable de surmonter l'étage dans lequel tu es. L'Égypte, c'est un étage. Un certain étage de la vie. Quel est cet étage? Qu'est-ce qu'il émet comme émission? C'est-à-dire, quand tu es en Égypte, qui est en fait le roi du monde? Le temps. Le temps. Comme d'ailleurs dans les dieux grecs, il y avait un dieu du temps. Il s'appelait Chronos. Okay? De là vient le chronomètre. Eh bien, en Égypte, le dieu du temps, c'était le dieu. Donc il servait en réalité le temps. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle Oved Kochavim et Mazalot. Les gens qui servent les étoiles, en réalité, ils ne se prosternent pas à l'étoile, ils se prosternent au temps, car l'étoile, c'est elle qui gère la notion de temps. Donc, qui est le premier des astres? Des astres. Ken, pas des astres. Des astres. Qui est le premier des astres? Je vais vous aider un petit peu. Quel est le premier signe astrologique de l'année? Le bélier. Or, le bélier est relatif à quel mois de l'année? Nissan. Ça veut dire qu'en réalité, si le bélier, qui est le premier des Mazalot, fait partie du mois de Nissan, égorger un bélier, ça veut dire quoi? Être au-dessus du temps. Je domine le temps, je suis même capable de l'égorger et de le manger. Mais, un bélier.
Mais, si on regarde les corbanates, à l'époque où ça a été fait, on peut comprendre que vouloir égorger un veau ou vouloir égorger un bélier ou n'importe quel animal, il y a une signification que c'est l'homme qui domine, c'est l'homme qui est bien au-dessus de l'échelle.
Mais aujourd'hui,
quoi. Voilà, c'est ça la question. Comment.
Alors, je répète ce que je dis à plusieurs reprises. Ne prends jamais le texte de la Torah, ni le texte de nos sages, ni le texte de la Haggadah au premier degré seulement. C'est ça le secret. C'est-à-dire que quand la Torah, elle te dit que chacun de nous doit prendre un bélier et de l'attacher au pied de notre lit à partir du 10 du mois de Nissan, c'est une leçon de vie, c'est pas d'amener seulement un bélier à l'intérieur de ta maison qui te fasse ses crottes en bas du lit et pendant 4 jours tu le caches dans ta maison pour que les Égyptiens le voient et qu'ils te vomissent sur le canapé ou j'en sais rien. Et après le 4e jour, tu dois le faire égorger. Ça, c'est un acte extérieur, mais qui symbolise quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que je suis capable, aux yeux de tous les Égyptiens, de prendre leur propre Dieu et de l'attacher au pied de mon lit. Et chaque Égyptien qui passe, qui entend et qui te pose la question, c'est quoi ça? Tu dis, eh ben, je vous ai pris votre Dieu et je l'ai attaché dans mon lit. Et mercredi, c'est-à-dire 4 jours plus tard, je vais l'égorger. Est-ce que tu es capable de faire ça? Je vais aller plus loin. Est-ce que tu es capable d'affronter et d'être tellement sûr de ce que tu représentes face aux nations du monde? Ou est-ce que tu as honte? C'est ça que ça veut dire. Est-ce que tu as la force de dire haut et fort ton identité sans avoir honte de ce que les nations du monde pensent? Est-ce que tu es capable de défendre ton armée d'Israël en disant que c'est une armée éthique, la plus éthique du monde, légitime, et qu'elle fait tout d'une manière extraordinaire, qu'elle juge ses propres soldats? On n'a jamais vu ça dans aucune armée du monde. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Le problème, c'est quand on a honte de dire ça, c'est que tu ne veux pas faire partie de cette histoire, donc tu ne prends pas ce bélier, tu ne l'attaches pas au pied de ton lit, donc tu ne fais pas partie de l'histoire, donc tu ne sors pas d'Égypte un jour ou l'autre. C'est clair cette leçon? Donc toute la Torah est un message cosmique, codé. Et il faut lire la Torah à tous ces degrés-là, pas seulement au premier degré. Alors d'accord, j'ai pris le bélier, mais qu'est-ce que je fais après? Il faut comprendre ce qui se passe à l'intérieur de ce bélier. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu répètes ce que je viens de dire. Je n'ai pas compris ce que tu as rajouté à ce que je viens de dire. Non, c'est une question. je t'ai dit, comprenez, le mouton ou le bélier, et qu'on l'attachait physiquement. Mais que ce n'était pas que ça. D'accord ? Donc, c'est comme faire une mitzvah. Je fais la chose en question, mais je sais qu'il y a quelque chose de plus profond. Quand tu manges la matzah à Pessah, tu manges des galettes ? Non. Il faut que tu comprennes ce que tu manges. C'est ça que je veux dire. Et pourtant, tu manges, tu mâches, ça va faire du bruit. Mais ce que je veux que tu sortes de mon cours, c'est que non seulement tu manges, mais tu intègres en même temps une notion de ce que la matzah veut dire. Et quand tu vas boire le vin, pareil. Et quand tu vas lire la Megillah et la Haggadah, et ce que tu veux, c'est la même chose. C'est comme ça que je souhaite que mes élèves apprennent la Torah. Qu'on ne néglige pas le degré actif, physique, mais que l'on sache qu'il y a un degré profond qui se cache à l'intérieur. Par exemple, quand on disait, par exemple, du temps de David Ameler, que les guerriers d'Israël sortaient avec leurs tefilin pour aller en guerre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bien sûr qu'ils sortaient avec leurs tefilin. Mais moi, je veux dire, qu'est-ce que ça représente ? Ça veut dire que je sors en guerre avec la conscience, par mes tefilin de la tête, que je suis rattaché au maître du monde et que ma guerre est légitime. Et je suis capable, avec les tefilin de la main, c'est-à-dire à faire passer tout ça dans mon acte. Tu comprends le message ? Et pourtant, j'avais des tefilines. Donc, si tu le regardes de l'extérieur, tu vois un soldat sur un cheval avec des tefilines de la main et de la tête. Et tu te dis, psh, c'est un sadique. Mais ça ne me suffit pas, moi, ça. Je veux que le soldat sache et qu'il n'oublie pas à aucun instant au nom de qui, de quelle valeur il se bat maintenant. Et qu'il est capable de transformer cette pensée en acte. Ça, c'est être fidèle. Et quand tu rentres à l'armée en Israël, tu dois à chaque instant penser à cela. Que tu es l'envoyé de la nation d'Israël, donc du peuple d'Israël, donc de Dieu lui-même, pour défendre les intérêts de qui finalement ? Pas seulement du peuple et de la nation et de la terre, mais les valeurs de l'éternel. Donc si tu fais ce travail-là, tu es un tzaddik, avec des vêtements de l'armée. C'est bien ? Alors ce que je t'ai dit, c'est pour tout le monde. Tous les degrés de la Torah sont nécessaires, les quatre degrés. Et le degré qui passe par l'acte, et l'allusion, et l'approfondissement, et le secret. Ce sont les quatre degrés avec lesquels nous devons étudier la Torah. Ce que nous appelons le Pardes. Pshat, Remez, Drash et Sod. Ok, on continue. Venire la Niudati, il me semble, avec l'aide de Dieu, qui mitzat sgulatam apnimit, reouim Israël et Igaël tamit. Qui donc sauve Israël, même si Israël est dans un état lamentable, comme c'était le cas en Égypte, qui les sauve ? Réponse, la Ségoula. Donc c'est Dieu qui les sauve grâce à leur Ségoula, grâce à la Ségoula qu'il a insufflé, imprégné en eux, comme vous voulez. Exactement. C'est-à-dire, il les sauve avec un degré que lui-même a placé en eux. Comme une carte magnétique à l'intérieur. Donc ça veut dire quoi ? S'il a placé cette carte magnétique à l'intérieur d'Israël, c'est que lui-même avait l'espoir de quoi ? Que ce peuple un jour réussira. Donc il ne peut même pas leur permettre de rater leur mission. Vous comprenez ? Ça va très loin. Ça veut dire que malgré nous, on ne pourra jamais rater notre mission. Vous avez compris ça ? Individuel, vous pouvez la rater, mais au niveau collectif. Et malgré nous, Dieu est avec nous dans tout ce que nous faisons. Individuellement parlant, tu peux t'extirper, tu peux sortir. Mais au niveau collectif, on est condamné à gagner. Hein? Ce qu'on appelle dans le langage du prophète, Netzach Israël, lo yeshaken. L'éternité d'Israël ne peut pas mentir. C'est-à-dire que Dieu a fait confiance et nous fait confiance, puisqu'il a ingéré en nous, implanté en nous cette carte qui s'appelle la Ségoula. Donc depuis le début de l'histoire humaine, et bien avant, il avait déjà fait confiance à ce peuple et il a choisi ce peuple lui seul pour faire ce travail-là. Donc si Chas v'Shalom, on rate notre mission, qui a raté toute sa création ? Dieu lui-même. Donc on ne peut pas, ça ne peut pas exister. Dieu ne rate pas sa mission. Dieu réussit. Mais qui est-ce qu'il utilise pour réussir ? Nous. Ça, c'est une autre question. Pourquoi c'est nous qui l'a choisi? Nous le disons tous les jours. Ashrei ha'am shekach alu. On ne sait pas. On ne comprend pas ce secret. C'est un secret qui nous dépasse complètement. Mais à partir du moment où il nous a choisi, on est à l'intérieur de ce rôle. Non, bien avant Abraham. Dès la création du monde, il a choisi déjà de créer cette Neshama qui s'appelle Israël. Après, elle s'est habillée chez Abraham et chez ses enfants. Mais la Neshama existe bien avant Abraham. D'accord? Et c'est la même chose au niveau de Yosef. Yosef HaTzadik. Il y a un verset qui nous dit « Vekol Asher Ose Hashem Atzliach Beyado ». Tout ce que Yosef faisait, ça lui réussissait. Fausse traduction. Non? Vekol Asher Ose Hashem Atzliach Beyado. C'est-à-dire, c'est Dieu qui réussit, mais à travers la main de Yosef. Est-ce que vous comprenez? C'est énorme. Ça veut dire que tout ce que nous réussissons dans notre vie aujourd'hui, qui réussit en fait? Dieu. À travers nous. Et tu ne dois jamais l'oublier. C'est-à-dire que si j'ai réussi, par exemple, à devenir quelqu'un d'important dans mon peuple, à qui revient tout ce kavod? À Kadosh Baruch Hu, pas à moi. Parce que moi, en fait, je suis ses bras. Moi, en fait, je suis sa bouche. Moi, en fait, je suis ses pieds. Je suis sa cristallisation, sa réalisation sur terre. Exactement. Donc, rater cette mission, c'est du Chilul Hashem. C'est profaner son nom, c'est-à-dire profaner son dévoilement. C'est limpide comme Torah Rabotai, c'est très simple et c'est essentiel. Donc, tout Chilul Hashem doit immédiatement se transformer en Kiddush Hashem. Claire? Ok. Tu voulais poser une question? Une deuxième question? Ok. Alors, le verset dit Ve'af Gamzot. Voilà le verset qui corrobore ce que je viens de dire. Ve'af Gamzot, traduction. Et bien que, malgré cela, Behiotam Be'eretz Oyvehem, qui soit dans les pays de leurs ennemis, L'homme me astim. Qu'est-ce que ça veut dire l'homme me astim? Je ne me suis pas dégoûté d'eux. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle. Bien qu'Israël est encore dans des pays où ce sont des ennemis d'Israël, et je ne les ai jamais quittés, je ne les ai jamais repoussés, ils ne me dégoûtent pas. Velo gealtim, la même chose, dans deux formes différentes. Goal, qu'est-ce que c'est Goal? Un dégoût. Les chalotam au point de les exterminer. Les hafer briti itam au point de changer le lien que j'ai avec eux. Jamais je l'ai fait, jamais je ne le ferai. Kiani Adonai Elohehem. Et pourquoi? Car je suis quoi? Non. Il n'est pas marqué car je suis leur Dieu. Ah, parce que je suis Hachem Elohim. Il y a les deux noms ici. Il y a le Shem Avaya, Yud Ke Vav Ke, et il y a le Shem Elohim. Ce n'est pas Tiani Hachem, parce que je suis Dieu. Alors, qu'est-ce que je viens vous rajouter ici avec ces deux noms d'Hachem qui apparaissent? Qu'est-ce que cela veut dire Hachem Elohim? C'est pas, c'est, bien sûr, c'est le même, mais c'est deux manifestations différentes. Il y a Femme. C'est-à-dire le transcendant Yud-Ke-Vav-Ke, celui qui est au-delà de la nature, mais qui est à l'intérieur, qui a pénétré la nature, Elohim, mais pas seulement Elohim, Elohim, à eux, précisément, à Israël. C'est-à-dire, je suis leur Dieu à eux. Extraordinaire, ça va très loin. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire, je suis l'être suprême qui dépasse le monde, et quand je rentre dans ce monde, c'est à travers qui? À travers Israël. Magnifique, c'est énorme, énorme. Mais si tu ne le vois pas comme ça et tu traduis en français directement, tu dis car je suis l'Éternel. Leur Dieu, et tu ne comprends pas ce que tu veux dire. Maintenant, vous comprenez. L'entrée de Dieu sur terre se fait par le canal Israël. Nous sommes les porteurs du message infini. Rabotai, je dis ça et je tremble. Les gens oublient ce que nous sommes venus faire. Alors on étudie une Torah qui est au ras des pâquerettes. Il faut revenir à la source, Rabotai. Il faut comprendre ce que nous sommes là, ce que nous sommes censés faire, ce pourquoi nous avons été créés. C'est pas un jeu. C'est énorme. Nous sommes les porteurs du message de l'infini, béni soit-il. Mais comment est-ce qu'on devrait se comporter tous les jours? Vous vous rendez compte de la responsabilité? Ça, c'est Pessah. Et quand vous êtes assis au Seder de Pessah, pourquoi il s'appelle Seder? Parce que c'est une remise en ordre de tout ce que je viens de dire maintenant. Parce que tu t'es désordonné, t'as perdu ça, t'as oublié. Durant toute l'année, t'as pu sortir du chemin, t'as oublié un petit peu, même si tu étudies la Torah. Alors on te remet en fait les pendules à l'heure. On refait de l'ordre dans ta vie ce soir-là. Et pourquoi ce soir-là et pas un autre? Ça, c'est ce que je vous ai dit après, mais avant tout. C'est là où le peuple est né. C'est ce soir-là, cette nuit-là, où le peuple d'Israël est apparu, un bébé qui vient de sortir du ventre de sa mère pour la première fois. Vous comprenez? Non, je dois aller à la source, c'est tout. Donc, qu'est-ce que tu dois te souhaiter, en fait, le soir du Seder? Bon anniversaire. De qui? De la nation. Les gens ne savent pas ça, Rabotaï. C'est la base de tout. C'est avec ça qu'il faut commencer n'importe quel texte concernant Pessah. Si tu veux donner un chiour sur Pessah, commence par ça. C'est le jour anniversaire de la nation d'Israël. C'est la première fois que le peuple d'Israël est apparu dans le monde. Libre. Il sort du ventre de l'Égypte. Après, tout le reste va arriver. C'est la racine de tout, c'est la matrice. Donc, qui est notre matrice? L'Égypte. Et qui est Eretz Israël? Notre femme. Donc, tu dois quitter ta matrice, ta maman, pour épouser ta femme. C'est ce que la Torah dit. Alken ya'azov ish et aviv ve et imo ve dabak beishto. Donc, tu dois quitter tes parents, c'est-à-dire l'Égypte. Et tous les pays du monde, c'est l'Égypte. Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Ikuté Moharan, dit l'Égypte, ce n'est pas seulement l'endroit en question. Tous les pays en dehors d'Eretz Israël s'appellent Égypte. Donc ça me fait bien rire quand les gens vont faire leur seder de Pessah. Et je ne veux pas commencer à citer parce qu'il n'y a pas de fin. Vous n'avez qu'à ouvrir vos petits journaux de Shabbat. Pessah en Turquie, Pessah à Bagdad, Pessah en Égypte, Pessah en Espagne, Pessah sur un bateau, et Pessah sur la lune, et Pessah sur machin. Ah, l'essentiel, c'est que ce soit glat caché, hein? Matzah shrouya, il y a un bon paytan. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est une maladie, c'est une dégénérescence de l'esprit. Le jour où tu veux fêter ta délivrance, tu vas en prison, volontairement. Je kiffe d'aller en prison. Laissez-moi rentrer. Donc, vous comprenez que c'est tout à l'envers. Et aujourd'hui, malheureusement, comme nous sommes devenus religieux, ce qui importe, c'est ce que tu as dans l'assiette. C'est tout. C'est tout. L'essentiel, c'est que ce soit glat, machin, tu as rasé les murs, tu as enlevé tout le khametz. Mais tu es en dehors de ta terre. Ça, c'est pas très grave. Mais alors, la maison, elle est nickel, hein? Ma bouteille, c'est pas ça. Quand vous faites le Bdikat Hametz la veille de Pessah, vous savez qu'est-ce que c'est que cette Bdikat Hametz? Vous croyez que vous allez chercher des morceaux de pain dans la maison? Franchement, qui a trouvé des morceaux de pain dans une maison après le nettoyage de votre maman ou de vos femmes? Il n'y a pas une miette qui, même le dernier microbe, il est en train de dire « je suis la dernière de ma génération ». Il n'y a plus. Alors qu'est-ce que vous cherchez? C'est autre chose, la bouteille. Vous savez combien de temps ça dure, un Bdikat Hametz? Chez l'un de mes maîtres, on faisait Bdikat Hametz pendant 3 heures. Vous savez ce que c'est? Il transpirait, le Rav. Chaque fois qu'il était dans un coin de la maison, il était dans un coin de son être. Et il a enlevé tout le Hametz de ce coin-là. Là, je suis dans le cerveau. Donc, je dois enlever tout le Hametz de mon cerveau. Là, je suis dans mon foie. je dois enlever tout le chametz de mon foie. Là, je suis dans mon comportement. Là, je dois enlever tout le chametz de mes comportements. Là, je suis dans mes pensées. Là, je suis dans mes yeux qui voient des choses interdites. Là, je suis dans mes oreilles qui entendent. Vous savez ce que c'est, ça? Ça, c'est une dikat hametz. C'est pas des morceaux de pain, c'est une rigolade ou quoi? Vous cachez vous-même des morceaux que vous recherchez. Un type, il vient de l'extérieur, il se dit, c'est des pantins, ces mecs-là. C'est quoi, ce peuple? C'est une plaisanterie. C'est une véritable recherche qu'on nous demande, Rabotai. Il faut redevenir toi-même, il faut redevenir le champion du monde, le meilleur homme dans ce monde. Il faut vouloir s'améliorer, il faut être après l'abdicat Rametz, un autre homme. Un autre. Et ce soir-là, il faut renaître. Le lendemain matin, je ne devrais même pas te reconnaître. Tellement tu es devenu quelqu'un d'énorme, de vrai, d'authentique, de fidèle à ta source. Ça, c'est Pessah, Rabotai. Vous comprenez l'importance de cette journée? Oh, c'est devenu des fêtes, machin, c'est la famille sympathique, c'est bien. C'est pas ça. Il faut être sérieux, il faut prendre les choses avec tout le poids nécessaire. Biou Chametz, non seulement tu l'as trouvé ton Chametz, mais le lendemain matin, il faut que tu ailles le brûler. Bon, ça suffit, ça va, je l'ai trouvé, ça y est. 3h30, j'ai passé à chercher les lacunes de mon être. Non, maintenant tu vas les brûler. Tu vas transformer tout ça en énergie. C'est ça, brûler. C'est pas pour les enlever de ce monde. C'est que le feu, c'est une énergie. Donc tu vas brûler, en fait, tous tes manques et tu vas les transformer en force. Je vous le traduis avec un langage d'aujourd'hui. Tout ce que tu étais jusqu'à hier, ça doit devenir maintenant au service du Kodesh. Tu étais quelqu'un de nerveux? Eh bien, sois nerveux maintenant dans la Torah. C'est-à-dire à chercher une source quand tu ne la trouves pas. Tu deviens acharné. Passe tes nerfs là-dedans. N'enlève pas cette qualité, car c'est une qualité quand c'est bien conduit. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Justement, pour transformer. Pas du tout. Tu sais ce que c'est le feu? C'est l'énergie la plus grande. Ça devient en fait un moteur. Tu mets tous tes problèmes comme un moteur. Tu crées en fait de tout ton manque une énergie. Dans quelle fête on fait la même chose à peu près? Sous une autre forme? L'Agba Omer. Mais quand est-ce qu'on n'a même pas besoin de brûler? Tout simplement, on utilise nos déchets comme étant l'essentiel de la mitzvah. Yafé, Meot, Sukkot. De quoi est fait le srach? De tous les déchets. Psolet, déchets. Goren veyekev. Incroyable. Tu as pris la tout ce que tu as rejeté dans ta vie et tu l'as mis sur ta tête. C'est-à-dire que ça devient maintenant le srach de la soukha. Énorme. Regardez cette leçon de vie avec laquelle vous sortez, Rabotai. Si tu as une faiblesse dans ta vie, si tu as un manque dans ta vie, si tu as quelques problèmes au niveau de ton comportement, transforme tout ça en énergie. Ne le gâche pas. Et ça revient à ce que nous avons dit tout à l'heure. Si tu es dans une période de noir, ne gâche pas ce noir. Utilise ce moment de manque pour réapprendre qui tu es. Ça vous parle ce que je vous dis? C'est très important. Ce sont des leçons de vie. Ce n'est pas on est en train d'étudier Pessah Stam. On est en train de nous éduquer à vivre, à changer notre vie, notre comportement, à devenir des hommes bien, bons, fidèles aux valeurs de l'infini. Ça, c'est Pessah. C'est là? Il y a une question? Oh. Ok.
On avait dit, Dieu est dévoilé à travers
Israël. Ok. Pour le monde, hein?
Nature,
à travers Israël, c'est-à-dire c'est Israël qui décode tout. Comment est-ce que Dieu se dévoile dans l'eau? Quand je fais Boré Shakol Niyavidvaro, donc j'ai activé en fait le divin qui est dans l'eau. D'accord? Ce sont des éléments que le peuple d'Israël découvre Dieu là-dedans. Kol Hashem, à la main. Kol Hashem, on dit, Dieu qui se dévoile dans l'eau, Dieu qui se dévoile dans l'air, Dieu qui se dévoile dans... C'est Israël qui est le porteur de la parole. Quand tu dis Mashiva Ruach Umorida Geshem, qui fait en sorte que les éléments de ce monde changent? Israël, par leur bouche. C'est incroyable. Alors, c'est sûr que Dieu se dévoile là-bas, mais s'il n'y a personne pour le voir et pour le dire, il y a une nation qui dit Mashiva Ruach Umorida Geshem. Israël. Moridatal, Israël. C'est-à-dire, nous sommes les activateurs, je ne sais pas si on peut dire ça en français, de toutes les potentialités de l'infini. Les activeurs, comment on dit ?
Les acteurs.
Les acteurs, les actionneurs, ce que vous voulez. C'est nous qui appuyons sur les boutons. Et tout est comme ça. C'est très important. Par exemple, la Géoula, elle est pour le monde entier, elle n'est pas seulement pour Israël. Mais qui prend conscience de cela ? Que Israël. C'est pour ça que pendant que nous, on est assis au Seder, les autres, ils font n'importe quoi. Quand l'année change d'une année à une autre, à Rosh Hashanah, qui fait un Seder ? Nous. Les autres, ils s'en fichent complètement. Quand le monde est jugé, jusqu'à la plus petite fourmi, qui prie en même temps pour que le monde soit bien jugé ? Israël. C'est-à-dire, nous sommes les seuls détenteurs de cette connaissance, de tous les changements cosmiques que l'infini opère. C'est, je ne sais même pas si vous comprenez ce que je vous raconte. Okay? Mais un jour, vous allez l'imprégner. C'est énorme, Rabotai, c'est énorme. On a reçu le plus grand rôle de l'histoire qui est très difficile à porter. Mais c'est énorme en même temps, c'est magnifique. Alors, Bezrat Hashem, puisque nous avons les clés, il faut qu'on utilise ces forces-là à bon escient. On ne se voit pas maintenant pendant quelques semaines. Donc je vous souhaite, Bezrat Hashem, d'arriver à vivre ces choses-là, à chercher en vous, à fouiller en vous, à vous rénover, à vous renouveler, à chercher le chametz qui est à l'intérieur de vous et pas seulement le chametz à la maison, à essayer d'introduire des éléments cachers, pas parce qu'ils sont seulement avec un tampon, mais il faut que le tampon soit un tampon céleste, c'est-à-dire ne mangez rien qui ne vient pas des valeurs de l'infini. Ne laissez pas vous embrouiller par des gens qui viennent vous raconter des histoires. Soyez fidèles et restez fidèles à votre essence. Et c'est comme ça que vous allez devenir des hommes libres. Pessah kasher, goel, vesamer. Tout d'abord.